VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 7 juin 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedunia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Gabon, la commission électorale a annoncé la date de la présidentielle de cette année.
Au Burkina Faso, la justice renonce à son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne.
Au Nigeria, un nouveau mouvement rebelle dans la région pétrolière du pays, la force conjointe de libération du delta du Niger.
Explosion à Istanbul, en Turquie, elle visait un véhicule de police.
Les musulmans ont commencé depuis hier à observer le Ramadan, mois saint de l'islam.
Présidentielle américaine, Hillary Clinton déclarée candidate de facto du Parti démocrate par des médias américains. Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, a fixé au 27 août la date de l'élection présidentielle prévue cette année dans le pays. De Libreville, correspondance de Jean Revis d'Abani.
Les autorités gabonaises ont fixé lundi les dates de dépôt des candidatures et de la campagne électorale. Selon un communiqué de la Commission nationale électorale autonome et permanente, CENAP, lu à la télévision nationale. La présidentielle gabonaise aura lieu le 27 août prochain. La campagne, qui durera 2 semaines, s'ouvre le 13 août pour s'achever le 26 août à minuit, précise le document. En tout, les acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin disposent de moins de 90 jours pour tenir les délais. La période de pour les candidatures à l'élection présidentielle est fixée au 12 juillet. Plusieurs ont déjà annoncé leur candidature ou investi par leur formation politique. Ali Bongo, qui a succédé à son père en 2009 lors d'un scrutin contesté, a été investi par le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Il y fera face à ses anciens camarades du gouvernement, dont Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, et Guizou Bandama, qui a démissionné du poste du président de l'Assemblée nationale, fonction qu'il a occupée pendant près de 20 ans. La veille, un autre opposant à M. Bongo, Casimir Oyemba, cadre du parti créé par André Mbaoba, a été investi par cette formation politique, aujourd'hui divisée. Plusieurs autres candidats ont aussi annoncé qu'ils s'est présenté en indépendant. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la justice a annoncé qu'elle renonçait à son mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015. Mais elle a demandé à la Côte d'Ivoire de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Le Nigeria est confronté à un nouveau groupe rebelle, en plus de Boko Haram. C'est la force conjointe de libération du delta du Niger. Des détails avec Eric Manirakiza.
C'est dans un communiqué que le conseil révolutionnaire de ce groupe rebelle, issu de la région pétrolière du delta du Niger, a déclaré la guerre contre le Nigeria. La force conjointe de libération du delta du Niger promet de viser toutes infrastructures construites avec l'argent du pétrole, dont la présidence et plusieurs bâtiments officiels d'Abuja. Les sièges des grands groupes pétroliers étrangers, des installations de l'armée et la banque centrale sont également dans le viseur des rebelles. Récemment, plusieurs attaques revendiquées par les vengeurs du Delta du Niger et notre mouvement rebelle ont pris pour cible des installations pétrolières. Ce groupe a demandé l'union des rebelles tout en les invitant à s'abstenir de toute action qui mettrait des vies en danger. Le Nigeria connaît une chute de production quotidienne du pétrole de 800 000 barils à cause de ces attaques. Le président Muhammadu Buhari a ordonné un dispositif de sécurité renforcé dans le delta pour tenter de contrer ces attaques. Mais cette approche est jugée inefficace par son prédécesseur, Goodluck Jonathan.
Au Niger, le gouvernement a décrété à partir d'aujourd'hui un deuil de 3 jours à la mémoire des victimes de l'attaque de la ville de Bosso le week-end dernier par des éléments de la secte Boko Haram, des victimes dont le nombre est revu à la baisse de 32 à 26. De Niamey, notre correspondant Abdourazak Idrissa.
Selon un communiqué lu à la télévision nationale après la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire sur 6 juin 2016, le bilan actualisé de l'attaque est de 26 morts côté ami, dont 24 soldats nigériens et 2 soldats nigériens, 112 blessés dont 111 militaires et une femme civile, 55 morts ont été enregistrés et de nombreux blessés du côté des ennemis, c'est-à-dire des éléments de la secte islamiste Boko Haram. Le gouvernement nigérien revoit donc à la baisse le bilan annoncé le lendemain de cette meurtrière attaque. Un deuil national de 3 jours a été décrété qui démarre ce mardi. Le même gouvernement indique que la ville de Bosso est totalement sous contrôle. Contrairement aux informations qui ont fait état du retour des éléments de la secte Boko Haram juste après le passage de la délégation du ministre dans la ville de Bosso. Information pourtant confirmée par plusieurs sources locales, notamment le maire de la localité de Bosso. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Kenya, la Commission nationale des droits de l'homme a saisi la justice hier pour contester la fermeture annoncée par le gouvernement du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde. L'organisme n'est pas d'accord non plus avec le renvoi de réfugiés somaliens dans leur pays. Jacques Aristide.
Dadaab, situé près de la frontière avec la Somalie, accueille 350 000 personnes, pour la plupart des Somaliens, qui fuient leur pays déchiré depuis plus de 20 ans par la guerre civile. Pour la Commission des droits de l'homme du Kenya, la fermeture de ce camp va mettre en danger les réfugiés et demandeurs d'asile s'ils sont renvoyés de force. Elle réclame que la DRA, c'est l'organisme gouvernemental en charge des réfugiés, qui a été dissous par le gouvernement, reprenne ses activités. Quant au gouvernement kényan, il explique cette fermeture programmée par des intérêts de sécurité nationale. Les autorités avancent sans en fournir la preuve toutefois que c'est à Dadaab qu'avaient été planifiées les attaques très meurtrières des islamistes somaliens Shebab contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et contre l'université de Garissa en 2015. Des voix du monde humanitaire ou universitaire se sont également élevées contre le projet du gouvernement et ont mis en doute sa faisabilité tant logistique que juridique.
La Commission européenne doit dévoiler mardi un nouveau plan face à l'afflux de migrants en Méditerranée, notamment depuis l'Afrique, d'où viennent la plupart des hommes et femmes qui ont entrepris la périlleuse traversée jusqu'aux côtes de l'Union européenne ces dernières semaines. Les détails du plan ne sont pas encore connus, mais il prévoit d'utiliser les fonds européens pour promouvoir l'investissement privé dans les pays d'origine des migrants, en particulier en Afrique, selon un document du Parlement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une attaque à la bombe a visé ce matin un véhicule de police dans le centre d'Istanbul, faisant 5 blessés, a rapporté la chaîne étatique TRT. La bombe, actionnée à distance, a explosé au passage d'un bus transportant des policiers dans le quartier de Beyazit, a précisé la télévision turque.
Ici aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton a passé lundi la barre du nombre de délégués qui lui assurent de devenir la première femme à briguer la Maison-Blanche pour un grand parti américain. C'est ce qui ressort des estimations de plusieurs médias américains. Jean-Roger Bion.
Oui, mais la candidate Clinton n'a pas crié victoire, craignant une démobilisation de ses partisans lors du dernier super mardi des primaires dans 6 États, dont la Californie, où son adversaire Bernie Sanders espère arracher une victoire symbolique. Et ajoutant à la confusion, le sénateur de Vermont a immédiatement dénoncé la précipitation médiatique, estimant que rien n'est acquis avant la convention d'investiture de Philadelphie du 25 au 28 juillet. Selon l'agence de presse Associated Press, l'ancienne secrétaire d'État a dépassé la majorité absolue de 2383 délégués nécessaires pour l'investiture, en comptant les délégués remportés lors des primaires, ainsi que les super-délégués, des responsables et élus du parti. De leur côté, les chaînes NBC, ABC et CBS ont déclaré Hillary Clinton vainqueur des primaires, même si l'investiture ne sera officielle qu'après le vote de la convention. Bernie Sanders a environ 800 délégués de retard sur elle.
La pression s'accroît sur le groupe État islamique, confronté en Syrie à des offensives de l'armée syrienne, soutenue par la Russie, et d'une alliance arabo-kurde appuyée par les États-Unis. Et en Irak, à l'avancée de l'armée irakienne sur la ville de Fallujah.
L'ONU a cédé hier à la pression de l'Arabie Saoudite en retirant pour l'instant la coalition militaire menée par Riyad au Yémen d'une liste noire de pays et organisations qui tuent des enfants dans les conflits. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, l'ONU et Riyad vont revoir conjointement le contenu du rapport qui accuse la coalition.
Enfin, la Pologne a donné lundi le coup d'envoi aux plus grands exercices militaires depuis la chute du communisme en 1989, avec la participation de plusieurs pays de l'OTAN dans un climat de tension avec la Russie. Le but de l'exercice est de vérifier la capacité des pays de l'Alliance de défendre son flanc oriental, a déclaré le ministre polonais de la Défense, Antoni Macierewicz, lors de la cérémonie de lancement à Varsovie. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco, Mélisse Hegel.
Signature d'un accord à Kinshasa lundi pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 240 MW. Le barrage de Busanga, en aval de deux autres centrales existantes sur le cours supérieur du fleuve Congo, au Katanga, doit être réalisé dans les 5 prochaines années. L'électricité produite doit être affectée prioritairement à la Sicomines, une coentreprise chinoise et congolaise. C'est au terme d'un accord signé en 2007 que la Chine s'est engagée à construire des infrastructures en échange de concessions minières en RDC et de prêts à l'État congolais. Inauguration de l'école des mines et de la métallurgie ce lundi à Mwanda, à l'est du Gabon, cofinancée par l'État gabonais et le groupe français Eramet. Cette école servira à former une main-d'œuvre qualifiée, mais aussi des ingénieurs. Le président Ali Bongo a déclaré inaugurer cette école pour que le Gabon ne soit plus seulement un pays exportateur de matières brutes, mais également transformateur. L'école doit ouvrir ses portes en septembre 2016 et accueillera 120 élèves. Le braconnage et l'exploitation illégales croissent deux fois plus vite que l'économie. C'est ce que pointe du doigt un rapport de l'ONU pour l'environnement et Interpol. Le trafic d'ivoire en Tanzanie, par exemple, a rapporté à ses auteurs cinq fois plus d'argent que le budget gouvernemental consacré à la protection de la faune sauvage. Le trafic de défense d'ivoire a provoqué la disparition d'un quart des éléphants d'Afrique en 10 ans. Un trafic estimé entre 7 et 23 milliards de dollars par an.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Idrissa.
Le tour cycliste de RDC suspendu.
Oui, la direction de la course a décidé l'annulation de plusieurs étapes du quatrième tour cycliste de la RDC. Il s'agit des étapes de Kindu, Goma, Kolwezi, Likasi et Likasi-Lubumbashi.
Copa América de football aux États-Unis.
Le Mexique a consolidé son statut de sérieux outsider dans la Copa América 2016 en dominant 3 à 1 l'Uruguay, privé de sa star Luis Suarez. Suarez est touché à une cuisse depuis la finale de la Coupe du Roi remportée par le FC Barcelone. Et cette nuit, Idrissa, deux matchs Panama-Bolivie et surtout un explosif Argentine-Chili. Et vous connaissez déjà les résultats, n'est-ce pas Idrissa?
Le Panama a battu la Bolivie 2 à 1 lundi à Orlando, Floride. L'Argentine a battu le Chili tenant du titre 2 à 1 lundi à Santa Clara en Californie. Euro 2016 en France.
L'Espagne dispute son dernier match de préparation pour l'Euro 2016, mardi contre la Géorgie. Un ultime rodage que l'équipe double championne d'Europe en titre aborde enfin au complet après l'intégration tardive des finalistes de la Ligue des champions. La Rora a semblé monter en puissance ces derniers jours lors de ses deux victoires en amical contre la Bosnie 3 à 1 et la Corée du Sud 6 buts à 1. Malgré un groupe incomplet et une équipe remaniée. Et enfin, à toi Idrissa, la NBA, championnat de basketball nord-américain.
Le troisième match de la finale que mènent les Warriors 2 à 0 face aux Cleveland Cavaliers aura lieu demain mercredi. Entre-temps, Stephen Curry, meilleur joueur NBA des deux dernières saisons, a annoncé lundi qu'il ne participerait pas aux Jeux Olympiques de Rio en août, afin de soigner son genou droit blessé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la justice a annoncé qu'elle renonçait à son mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015. Mais elle a demandé à la Côte d'Ivoire de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. Le commandant Alioune Zaharé, commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, a animé hier une conférence de presse sur les dossiers majeurs que sont celui de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et du coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré. A noter que la justice militaire burkinabé a changé son fusil d'épaule en optant pour la dénonciation au lieu du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
Sur la table du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, il y a quatre dossiers, dont deux très gros, celui de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et celui du coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré. La nouvelle donne, dans l'affaire du coup d'État, est l'abandon du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour une procédure de dénonciation. Suivons les explications du commandant Alioune Zaharé, le commissaire du gouvernement.
En ce qui concerne le sieur Guillaume Soro, au regard du caractère d'extranéité du sujet et des obstacles juridiques, comme le principe selon lequel qu'aucun État n'extrade son national, que dans toutes les conventions multilatérales et bilatérales qui lient le Burkina Faso à d'autres pays, toutes ces conventions stipulent que l'extradition n'est pas possible en matière d'infractions politiques ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes. Le parquet donc a opté pour la procédure de dénonciation dans le cas d'espèce, ce qui du reste a été fait et transmis donc par les canaux appropriés depuis au moins 2 ou 3 semaines.
Et sur la tenue prochaine des procès, le commissaire du gouvernement affirme:
nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous serons au moins en mesure d'entamer les audiences. Si d'ici là, la Cour de cassation arrivait donc à statuer sur les incidents de procédure soulevés aussi bien par les avocats que par le ministère public.
Nous avons rencontré Maître Prosper Farama, avocat de la famille Sankara. Il s'inquiète sur la tournure que prennent les choses.
Au début, nous étions à une phase de suspicion, mais aujourd'hui, quand on observe, on a des raisons réelles et sérieuses de s'inquiéter. Et il nous dit, oui, que les États n'acceptent pas d'extrader les ressortissants. Oui, car cela ne tienne. Mais ce n'est pas à lui de se mettre à la place des États pour dire si oui ou non ils extraderont leurs concitoyens et de prendre des lois en fonction de ce que les États souhaitent. Est-ce que quand on lance des mandats contre Gbagbo et qu'on l'extrade devant la Cour pénale, la CPI, est-ce que Gbagbo n'est pas un Ivoirien? Mais comment l'État de Côte d'Ivoire a-t-il pu accepter que Gbagbo soit jugé à la CPI?
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Au Niger, opération d'identification des contractuels du corps enseignant de Niamey, les précisions de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les contractuels représentent au Niger plus de la moitié du corps enseignant, surtout au primaire et au secondaire. Plus d'une décennie après l'instauration de ce système, l'État a du mal à maîtriser les effectifs et partant les pécules qui leur sont payés. D'où cette opération d'identification lancée il y a une semaine. Issoufou Bourema est le président de la Haute Autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALSIA.
D'énormes sommes sont englouties dans le secteur de l'éducation et des informations pas très reluisantes refusent de tous côtés par rapport à la mauvaise utilisation de ces sommes, par rapport à des actes de détournement ou de fraude qui sont monnaie courante dans le secteur. C'est pour avoir le cœur net que les ministères en charge de l'enseignement ont demandé à la HALSIA de l'aider à identifier l'ensemble des contractuels, maîtriser les effectifs et par là même maîtriser cette dépense importante qu'est donc le paiement des pécules.
La HALSIA attend la fin de l'opération pour communiquer les les résultats. Dans tous les cas, l'initiative est appréciée par les enseignants eux-mêmes.
Je trouve que c'est une bonne initiative. Si ça continue comme ça, ça va permettre de connaître qui sont contractuels, qui n'est pas contractuel. Je trouve ça très bon. Elle ne s'est pas serrée. Et des gens qui touchent les péquilles au nom des contractuels fictifs qui n'existaient pas. Mais si cette initiative est dans ce sens-là, vraiment, elle est à s'allier.
L'objectif du contrôle de la Halcia, c'est tout simplement de détecter ces enseignants fictifs-là et de réduire la masse salariale. Nous allons d'ailleurs exiger à ce que le rapport soit publié pour que le surplus qui a été détecté soit utilisé pour revaloriser les pécules de ceux qui sont effectivement sur le terrain ou bien mieux intégrer tous ceux qui sont contractuels.
Les syndicats d'enseignants ont toutefois décrié la période choisie, à savoir la fin de l'année. Beaucoup d'écoles ont en effet déjà fermé leurs portes. Ils ont surtout dénoncé le fait que l'opération soit lancée alors que certains de ces enseignants contractuels accumulent au moins 3 mois d'arriéré de pécules. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Au Burundi, les 11 élèves entre 13 et 19 ans du lycée de Muramvya, accusés d'outrage au chef de l'État et emprisonnés, seront privés de liberté le temps que la justice se prononce sur leur cas. Il y a une semaine, ces élèves du secondaire avaient gribouillé des photos du président Pierre Nkurunziza dans leur manuel scolaire. Les parents ont demandé leur libération car aucune sanction n'est prévue par la loi burundaise dans de tels cas. Plus de 300 autres élèves avaient été renvoyés il y a plus d'une semaine pour la même raison dans la province de Bujumbura. Reportage de Christophe Nkurunziza.
Dans la grande salle des spectacles du lycée de Muramvya au centre du Burundi, le gouverneur de la province, Emmanuel Niyondiko, le commissaire régional de la police, le directeur du lycée et les représentants des enfants qui étaient en réunion pour trouver une solution aux 11 enfants emprisonnés pour gribouillage de la photo du président Pierre Nkurunziza se sont séparés sans trouver un consensus. Pour la maman d'un enfant qui est en 9e année, il faut que ses enfants soient libérés.
Les bouquins circulaient dans 3 classes du même établissement. Normalement, tous les élèves devraient être punis ensemble. Je ne peux pas comprendre que ces livres soient écrits sur le nom d'un seul enfant. Ensuite, il n'y a pas de preuves palpables, car ces élèves ne seraient pas allés en prison à 11. On aurait pointé le doigt sur les vrais coupables. Nous demandons que nos enfants soient libérés et aillent passer les examens.
Et pour le gouverneur de la province de Muramvya, Emmanuel Niyondiko, les parents des enfants de cette ancienne province monarchique n'encadrent pas suffisamment leurs enfants.
Après avoir échangé sur cette situation, nous avons constaté quand même qu'il y a eu quelque part une défaillance de la part des élèves. Ils ont commis une faute qu'on qualifie de grave. Seulement, ce que je vous dirais, c'est que la province de Muramvya est une province particulière avant l'histoire du pays. C'est une province qui était la capitale royale, ce qui montre que la population de Muramvya doit se souvenir de l'importance, de la valeur d'un roi. Nous sommes convaincus que après Dieu, c'est le roi. Aujourd'hui, le roi du Burundi, c'est le président. C'est-à-dire le respect du roi, le respect du président doit être une rigueur dans le monde entier, plus particulièrement dans notre pays, le Burundi. Alors, après avoir réalisé ça, nous avons constaté que les parents n'ont pas pu peut-être remplir leur mission noble d'enseigner les enfants les valeurs qui doivent qu'elles les jeunes aujourd'hui, parce que ce sont eux qui sont responsables de ce pays.
Vendredi dernier, un des éléments des forces de l'ordre avait tiré sur des élèves qui manifestaient contre l'arrestation de leurs camarades de classe. Deux élèves a été blessé. Le dernier vendredi du mois de mai, 337 élèves de 2 établissements de la zone de Ruziba, en commune de Moura, province de Bujumbura, avaient été renvoyés pour outrage au chef d'État pour le même délit. Pour un des avocats de la défense qui a requis l'anonymat, le gribouillage devient un délit punissable par le code burundais quand il est écrit et ou verbal. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
À l'instar de nombreux pays musulmans, le Mali a débuté hier le mois de Ramadan, ce mois saint de l'islam qui doit être un mois de solidarité, d'entraide et de communion. Et pour certains, le mois le plus difficile, cela à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité. Kassim Traoré a fait un tour dans certains marchés de Bamako.
Ce lundi 6 juin 2016 est le début du mois de Ramadan. Il est le 9e mois lunaire. Mais pour débuter le jeûne, le fidèle musulman doit s'assurer de l'apparition de la lune. Cette année, l'annonce de l'observation de la lune a été faite très tard dans la nuit.
Moi, je me nomme Traoré Suleiman. La lune est très percevable. Moi, je ne suis pas très satisfait parce que moi-même, moi personnellement, j'ai appris ça à 2h du matin. Dans le nord, on regarde peut-être vers le 19h, 18h, mais on nous a informé jusqu'à 2h du matin. Bon, à propos de ça, je ne suis pas trop satisfait. Parce que comme dire qu'on a appelé la lune, j'étais prêt pour le jeûne. Quoi.
Conséquence de cette observation tardive de la lune, certains n'ont pu jeûner, comme Al-Gassimou Bari, tailleur.
Je me suis réveillé, matin, j'ai entendu à carême, je n'étais pas prêt. Je ne suis pas en jeûne quand même. Tous les années, si le carême vient et augmente le prix, c'est ça qui est un peu bizarre. En tant que pays musulman, c'est en ce moment que les choses devraient être faciles.
Le jeûne chez les musulmans recommande certaines restrictions, mais qui sont synonymes de partage.
La soumission et l'entraide entre nous-mêmes, chercher la bénédiction des uns des autres. Les gens cherchent Dieu très loin. Dieu, c'est notre voisin, c'est toi, c'est moi. En ces moments précis où nous devons nous réconcilier entre nous-mêmes et avec Dieu, nous essayons de compliquer les choses en nous rendant les uns les autres la vie plus chère. Je pense qu'on passe un tout petit peu à côté de l'objectif même du mois de Ramadan.
Dans certains marchés de Bamako, les prix des denrées de première nécessité ont pris de l'ascenseur.
Non, le prix est augmenté, très augmenté même. Ça aussi, les commerçants, ils ont là à nous tirer. Même le cycle là, ils ont augmenté. Avant, ce n'était pas 500 et puis 550, mais actuellement, ils ont augmenté ça aussi. Donc, il faut qu'on voit aussi ensemble aussi, à discuter. Ils n'ont qu'à diminuer pour qu'on puisse acheter ces trucs-là.
J'ai constaté que tout est cher, quoi. L'oignon, la viande, l'huile, etc., etc. Tout est devenu intouchable. Tout est très cher.
Bien avant le mois de Ramadan, le gouvernement avait fixé les prix des produits de première nécessité. Dans chaque boutique, ces prix devraient être affichés au bas des marchandises. Tel n'est pas le cas de nos jours.
Moi, c'est Konibadi Daouda Guindo. Au niveau de notre boutique, j'ai remarqué qu'ils avaient augmenté les prix. Mais il y avait les contrôleurs de l'État qui ont aperçu ça. Ils ont convoqué, ils ont fermé la boutique et convoqué ces gens-là pour les pénaliser en même temps. Et maintenant, de venir afficher même les prix au niveau des boutiques. C'est encore insuffisant, par exemple. Il y a d'autres boutiques qui sont en train de continuer à faire ces manigances. D'autres ont essayé dû au contrôle, mais le contrôle ne se fait pas dans tous les mêmes endroits, normalement.
Le mois de Ramadan au Mali est devenu le mois le plus cher. Tout cela se passe au vu eux aussi du gouvernement qui devrait fixer de commun accord les prix des denrées de première nécessité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Ici aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle de novembre bat son plein. Si l'argent demeure le nerf de la guerre, c'est le travail de fourmi des équipes de campagne et des bénévoles qui peut mobiliser les électeurs le jour du scrutin. Précision de Lionel Gahima.
Il n'y a rien de tel qu'un meeting électoral pour mobiliser les électeurs et susciter leur enthousiasme. Mais ce qui se passe avant et après est tout aussi important. Chaque nuit, nous restons tard pour entrer les données dans l'ordinateur et planifier les activités du lendemain, ainsi de suite. Tim Pham était membre de l'équipe de la campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton à Los Angeles. Il travaille en moyenne 12 heures par jour, recrutant des volontaires faisant du porte-à-porte quand il ne téléphone pas aux électeurs en anglais, en coréen ou en espagnol pour leur rappeler d'aller aux urnes le moment venu. Quelques kilomètres plus loin, Jeremy est à l'œuvre pour le compte de son candidat, l'autre démocrate Bernie Sanders. Le meilleur, c'est quand vous rencontrez quelqu'un d'autre qui possède ce genre d'empathie, cette passion de tout abandonner et de tout faire pour cette révolution, pour faire entendre nos voix et les voix de ceux qui ne sont pas représentés. Aucun volontaire de l'équipe de campagne du républicain Donald Trump n'a accepté de parler à la VOA, mais nombre de ses partisans vantent ses mérites. Ce sont essentiellement des Blancs, avec une poignée d'immigrants qui ne jurent que par Trump. L'un d'eux est Vishnuvala Tarasan. Certaines choses qu'il a dites sont offensantes, mais ce sont des choses qu'il fallait dire. Ce qui compte, c'est que l'Amérique soit en sécurité, qu'elle soit puissante, qu'elle soit grande à nouveau. Bien que travaillant pour différents candidats et différents partis politiques, les membres des équipes de campagne ont une chose en commun, la conviction que chaque vote compte.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.